Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par les appels adressés au 15. L'appel au 15, numéro d'urgence pour le service d'aide médicale urgente, le SAMU, concentre à la fois la réception des appels, la régulation médicale des cas, la prise de décision concernant la prise en charge, la sollicitation des pompiers et des autres structures mobiles d'urgence et de réanimation, comme le SMUR. Le numéro est national, mais il est assuré au niveau départemental. En 2017, Madame Naomi Moussanga a appelé le 15 pour des douleurs abdominales intenses. L'opératrice ne l'avait pas prise au sérieux et s'était même moquée d'elle et de sa douleur. Et cette dame est décédée seule dans des conditions qui ont beaucoup choqué. Bien avant le jugement de l'opératrice, dès 2019, soit 18 mois après le décès de Madame Moussanga, a été créé le diplôme d'assistant de régulation médicale, ARM, désormais obligatoire pour travailler dans les centres de régulation des appels des services du SAMU. Depuis 2023, les ARM ont le statut de professionnels de santé. La personne qui est en première ligne, celle qui répond à l'appel du 15, c'est donc l'assistant de régulation médicale. Sur lui repose la responsabilité d'une compréhension précise de la situation de l'appelant. Ensuite, le médecin régulateur intervient pour évaluer et prendre des décisions. La nature même de l'urgence médicale exige des décisions rapides, souvent dans des contextes de tension où la vie et la mort peuvent se jouer en quelques minutes. Le rôle des assistants de régulation et des médecins régulateurs est primordial pour déterminer quelles situations sont les plus urgentes et pour venir en aide de manière efficace. Il y a 3 semaines, dans un autre département d'Occitanie, malgré les 2 appels de son ami, une jeune femme n'a pas été prise en charge alors qu'elle souffrait d'une méningite qui a causé son décès. C'est une situation qui rappelle celle de Naomi Moussanga et qui interroge sur l'appréciation des personnes qui répondent aux appels. Comment sont formés les assistants de régulation médicale? Comment les soignants du 15 décident-ils de la suite donnée à un appel de détresse? Existe-t-il des biais dans la manière dont les appels sont traités? Comment évaluer correctement la douleur d'un patient au téléphone? Et plus globalement, ces questions convergent vers la possibilité d'une prise en charge des patients par téléphone qui respecte les principes fondamentaux de l'éthique que sont la dignité et l'autonomie du patient. Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Lolita Bisquera, qui est assistante de régulation médicale et formatrice au Centre de formation d'assistants de régulation médicale, et Vincent Boone, qui est médecin responsable du SAMU 31 et du Centre 15, qui lui est associé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vincent, je vous adresse ma première question, qui est une question assez générale. Comment est né le 15 ? Quelles sont en fait les raisons de la création du 15?
Alors, le 15 est né à Toulouse, c'est ce qu'il faut savoir. Et il est né d'une désobéissance, en fait. Il est né d'une insubordination. C'est dans les années 60, en fait, au moment où il y avait le plus d'accidents de la route et des accidents très meurtriers, qu'un de mes prédécesseurs, le professeur Louis Laringue, s'est aperçu que la prise en charge hors de l'hôpital était très mauvaise. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de système organisé. Il y avait un peu police secours, il y avait parfois un taxi ou un passant. Et donc les patients partaient donc dans des états catastrophiques à l'hôpital, n'avaient pas de soins pendant le trajet et arrivaient morts à l'hôpital. Ce constat a été fait par plusieurs autres, on va dire, personnalités du monde médical à l'époque. Mais c'est Louis Laringue qui est le premier à créer le SAMU, donc en 1968, à Toulouse. Et le premier patient pris était donc un enfant qui était gravement malade et qui sont allés chercher en préhospitalier, ce qu'on appelle donc maintenant le préhospitalier, qu'ils ont ramené à l'hôpital et ce qui a valu pour le coup d'être convoqué à la commission de discipline de l'hôpital, puisqu'à l'époque c'était impensable qu'un médecin sorte de l'hôpital. Voilà. Donc le SAMU est né de ce constat qu'en fait les patients mouraient trop en préhospitalier et que certains d'entre eux pouvaient bénéficier d'un médecin. Au départ c'était un anesthésiste réanimateur. Maintenant, c'est un urgentiste qui va les soigner dès, comme dirait Louis Laringue, dès le pied de l'arbre, du pied de l'arbre jusqu'à la réanimation. Voilà.
Et alors, j'ai une question qui s'adresse plutôt à vous, Lolita. Quel est le profil des personnes qui deviennent assistants de régulation médicale? Comment ils sont recrutés et comment ils sont formés? Ça, c'est une autre question peut-être, mais d'abord, quel est le profil de ces personnes?
Les personnes qui choisissent de devenir assistants de régulation médicale proviennent généralement de milieux variés, mais principalement, on trouve beaucoup de reconversions professionnelles.
Donc, d'accord.
On va avoir un bon nombre, du coup, de personnes qui sont déjà ambulanciers ou aides-soignants, Mais pas que, on a aussi beaucoup d'élèves qui ne proviennent pas du tout du milieu médical ou paramédical.
D'accord. Et beaucoup de reconversions, donc.
Oui.
Ouais. D'accord. Et alors, comment se passe la formation des assistants de régulation médicale ?
La formation dure 10 mois et elle est divisée en deux parties. Donc, on va avoir une partie théorique et une partie pratique. Et chaque partie fait 21 semaines. On a une partie théorique qui est très complète. On va apprendre des choses comme le rôle et le cadre de l'exercice de l'ARM, les pathologies de l'urgence. On va avoir des cours sur la communication, savoir guider les gestes de premier secours par téléphone. Ça va être très important. Mm-hmm. Puis on va apprendre aux futurs ARM à réagir face à des situations sanitaires exceptionnelles.
Ah oui, aussi.
Voilà. Mmh. Et on fait beaucoup de simulations d'appels. Donc, c'est des faux appels, des petits exercices comme ça qui permettent donc aux élèves de s'entraîner dans des conditions qui sont quand même proches de la réalité.
Oui, d'être plus familier, en fait. C'est sur le principe de la simulation en santé qui fait que... qu'est-ce que c'est ? C'est un autre élève qui joue le rôle de l'appelant ou...
Alors, ça va plutôt être les formateurs.
Les formateurs.
On va jouer le rôle d'un appelant et l'élève va jouer le rôle de l'ARM. Et au fur et à mesure de l'année, en fait, et de leur... De leurs compétences qu'ils vont apprendre au fur et à mesure, on va durcir un peu l'exercice et on va leur apprendre tout au long de l'année.
D'accord, en faisant varier, j'imagine, les situations.
Exactement.
D'accord. Et Vincent, donc, vous parliez tout à l'heure des rôles des médecins qui sont maintenant des urgentistes. Donc, c'est en général les urgentistes qui sont des médecins régulateurs ou pas ?
Il y a actuellement deux grandes catégories de médecins régulateurs, on va dire. Ceux qui gèrent, on va dire, un peu la partie historique, ce qui s'appelle l'aide médicale urgente, ce sont les urgentistes, en gros les patients graves, les patients sévères. Et puis est apparu au fil du temps un besoin de plus en plus important, qui est maintenant colossal même, de prendre en charge des patients qui relèvent de la médecine, on va dire, générale, mais qui ont des problèmes pour accéder aux médecins généralistes, soit parce qu'ils ne travaillent pas, soit parce qu'ils n'ont pas de médecin généraliste. Vous savez qu'à une époque, les généralistes étaient là jour et nuit pour la patientèle, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ils sont organisés différemment. Et donc, il y a ce besoin, ce qu'on appelle de soins non programmés, qui est plutôt de la médecine générale, et cela est traité par des généralistes. Donc, en général, cohabitent dans tous les centres de réception et de régulation des appels deux catégories de médecins, les urgentistes qui gèrent plutôt l'urgence vitale et l'urgence grave, ceux qui vont plutôt aller à l'hôpital, et les médecins généralistes qui gèrent plutôt la médecine générale.
Et donc, c'est... à l'assistant de régulation médicale de savoir à qui il envoie l'appel, finalement.
Oui, exactement.
Et est-ce que l'organisation du Centre 15 a des particularités selon chaque département ? Là, c'est plutôt vous, Vincent, je pense, qui avez la vue sur ça. Parce que c'est un numéro national, mais qui est géré au niveau du département. Est-ce qu'il y a des particularités ou est-ce que les pratiques sont toujours identiques, quel que soit l'endroit d'où on appelle ?
Il y a un cadre national, bien entendu, qui normalement garantit globalement, alors bien sûr il y a des petites variations, mais un niveau de réponse identique à tous les appelants, quel que soit leur département d'origine. Après, bien sûr, il y a les réalités de terrain. Et il est évident que le SAMU de la Corrèze ne va pas se manager de la même manière que le SAMU de la Haute-Garonne. Il y a une différence de population et de plateau technique également, qui est excessivement importante. Donc je dirais que au travers de ces grosses différences qui sont très souvent géographiques en fait et organisationnelles, le canevas, la volonté est un petit peu la même. La formation obéit elle aussi à des diplômes nationaux maintenant, comme on le verra au cours de cette interview. Et globalement, les pratiques sont harmonisées au sein de ce qu'on appelle les sociétés savantes, en gros, qui nous édictent des règlements, des guides de bonnes pratiques, et qu'on essaie évidemment toutes et tous d'appliquer.
Et donc, le 15, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il vient suppléer parfois l'absence de médecins généralistes accessibles directement. Donc le 15, il apparaît aussi en bas de toutes les prescriptions, il est sur tous les répondeurs de médecins généralistes. Donc il y a une volonté de placer le 15 en avant pour éviter l'afflux aussi de patients directement dans les services des urgences. Et en même temps, est-ce que ce débordement qu'on essaye d'éviter aux urgences, il n'est pas reporté sur le 15 ? Pour le dire autrement, ma question c'est, est-ce que les moyens qui manquent aux urgences pour accueillir tout le monde ne manquent pas au 15 pour assurer une qualité optimale de réponse ?
Il faut savoir que dans la plupart des centres hospitaliers, les médecins urgentiste donc, qui travaille au 15, travaille aussi dans les urgences. Mmh. Et donc c'est le même pool de médecins. Donc oui, forcément, quand il manque des médecins aux urgences, ça veut dire aussi qu'il manque des médecins au SAMU, et que donc parfois il y a des difficultés de réponse. Sachant qu'effectivement le 15 est souvent sanctuarisé dans les équipes, c'est-à-dire que même s'il y a des difficultés dans les urgences, on va privilégier effectivement la réponse téléphonique, parce qu'on sait qu'elle est effectivement, elle peut permettre en tout cas de trouver beaucoup de solutions en amont des urgences. C'est très important. Alors oui, effectivement, ce qu'on a vu au fil du temps, c'est un glissement d'une partie de l'activité, d'une part ben, de la médecine de ville vers les services d'urgence, voilà, et puis également aussi de la médecine des étages de l'hôpital vers la médecine d'urgence, et en particulier ce qui faisait beaucoup il y a quelques années, c'est-à-dire les entrées directes dans les services de patients qui étaient déjà connus, par exemple en gastro-entérologie, en, peu importe, et bien ces patients-là maintenant passent par les urgences pour avoir tout un bilan qui soit à la fois clinique et avec des examens complémentaires, et donc effectivement les urgences concentrent maintenant un certain nombre de patients, beaucoup. Si vous voulez quelques chiffres donc, par rapport aux 15, à peu près la moitié des appels relèvent d'un conseil simple, en fait, d'un conseil médical simple. Et on estime que globalement, 70% des appels pourraient être gérés par d'autres voies que le 15, c'est-à-dire par principalement la médecine de ville, en l'occurrence, voilà. Et donc, effectivement, la part d'urgence, entre guillemets, vitale du 15 est de l'ordre de 30%, voilà. D'accord. Donc oui, il y a ce glissement, effectivement, qui fait que ben, parfois on a du mal à répondre, et parfois, oui, c'est compliqué. Après, pour le coup, enfin, on a mis en place une organisation depuis le temps, qui nous permet quand même, en tout cas, encore à Toulouse, et je pense dans beaucoup de départements, d'être tout à fait efficace. Même si, par exemple, il y a des départements, si on parle de Périgueux, par exemple, qui est en Dordogne, si je me rappelle bien, il n'y a plus de SAMU depuis quelques jours ou quelques semaines, parce qu'il n'y a plus assez de médecins pour le faire. Voilà.
J'ai lu récemment que les infirmiers pouvaient être mobilisés, les infirmiers, j'ai perdu le mot, je vais
Alors on parle des infirmiers
question.
De pratique avancée en particulier.
Non, oui, je parlais des
infirmiers correspondants SAMU, sapeurs-pompiers, oui. Alors il y a beaucoup de glissements de tâches qui se font en fait. Tout simplement, je crois que si on partage un constat collectif en France, c'est qu'on n'a pas formé assez de professionnels de santé, et en particulier pas assez de médecins sur les années qui sont passées. Donc on se retrouve avec une vraie pénurie de médecins, effectivement. Le taux de médecins rapporté à la population baisse. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on était autour de 150 médecins pour 100 000 habitants. On est maintenant beaucoup plus proche de 100 médecins pour 100 000 habitants, je parle des médecins généralistes.
D'accord.
Dans la plupart des départements maintenant, c'est un taux qui baisse depuis des années. Il n'y a rien qu'à voir la difficulté qu'on a pour accéder à un médecin, ne serait-ce qu'au centre-ville de Toulouse. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 Toulousains qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà. Et donc oui, on n'a pas assez formé de médecins. Et donc forcément, comme former un médecin, ça prend du temps. C'est des médecins qu'on va former sur 10 ans, voire plus. Eh ben, le temps de former de nouveaux médecins, il faut utiliser donc ce qu'on appelle des compétences ailleurs, et donc une délégation de compétences avec des infirmiers, par exemple, avec des kinés, et avec, en tout cas dans notre cas à nous, ce métier tout neuf finalement, qui est à la fois ancien et neuf, d'assistant de régulation médicale, et donc qui est un métier qui nous permet clairement à nous de gagner beaucoup de temps, qui nous économise là aussi du cerveau disponible, grâce à un vrai binôme qu'on a réussi à créer avec les ARM depuis maintenant des années. Voilà.
Et vous, Lolita, sur cette évolution des appels au 15, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus d'appels aujourd'hui qu'au début de votre exercice, par exemple ?
Oui, clairement, on note un nombre d'appels qui est plus important, et du coup, c'est forcément une charge de travail un peu plus importante. Mais il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. On connaît maintenant les moments où on a des flux d'appels qui sont plus importants.
Ah d'accord, il y a des moments de la journée.
Oui, il y a des jours de la semaine, et voilà. On sait qu'il y a des moments où on va recevoir plus d'appels. Donc les plannings des ARM sont faits pour que ces tranches horaires soient adaptées à notre activité. Donc on arrive à pallier en fait à cette surcharge, et on peut garder une réponse adaptée et correcte pour tout le monde.
Pour qu'on se représente bien, vous êtes les assistants de régulation médicale sont réunis sur un même plateau, c'est ça ?
Oui, à Toulouse, on est dans une grande salle commune et on est mélangés avec les médecins urgentistes. Il y a une salle à côté avec les médecins généralistes. Les ARM sont au milieu de la salle. On est tous mélangés, c'est une grande salle.
Et ça se situe où ?
À Purpan, à l'hôpital Purpan.
D'accord. Parmi les appels qui sont reçus par le 15, il y a beaucoup d'appels pour des situations non urgentes, c'est ce que vous évoquiez. Et la tâche des assistants de régulation médicale, c'est de chercher l'urgence comme une aiguille dans une botte de foin, en quelque sorte. C'est-à-dire chercher l'urgence dans de très nombreux appels non urgents. Et il y a dans ce procédé une notion de filtrage ou de régulation. D'ailleurs, c'est dans le titre, le nom de votre fonction. Une régulation qui est parfois difficile à comprendre. Quels sont les critères de cette régulation ? Et est-ce que vous transmettez tous les appels que vous recevez à un médecin régulateur ?
Alors, tous les appels doivent être régulés, c'est la règle. Donc, il est vrai que tous les appels qu'on reçoit au 15 ne sont pas forcément des appels qui concernent des urgences vitales, mais ça reste quand même des urgences. C'est des appels qui peuvent être plus ou moins urgents. Et nous, notre travail en tant qu'ARM, c'est d'analyser justement chaque appel rapidement pour pouvoir faire la différence entre ce qui va être urgent et ce qui va pouvoir attendre un petit peu la prise en charge. Et donc, pour ça, on va questionner en fait l'appelant ou le patient, la personne qu'on va voir au téléphone, pour repérer justement la gravité et l'urgence dans l'appel.
Oui, parce que finalement, la personne que vous avez au téléphone, ce n'est pas forcément la personne qui est en souffrance.
Enfin, non, peut être un témoin, ça peut être un membre de la famille, un ami, un collègue de travail.
Et donc, Vous allez passer tous les appels au médecin, à un médecin régulateur ?
La majorité des appels vont être transmis au médecin régulateur. Mais il y a certaines situations où l'ARM, donc l'assistant de régulation médicale, peut intervenir tout de suite grâce à des protocoles précis. Ce qu'on appelle en fait dans notre jargon les départs réflexes.
D'accord.
Voilà, ça va être des situations d'extrême urgence où on va pouvoir déclencher des secours avant même d'en aviser le médecin régulateur.
D'accord. Et vous avez en fait des critères pour ce genre de procédure.
Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs motifs d'appel pour lesquels justement on peut faire partir une équipe médicalisée.
Voilà. Lorsqu'il n'y a pas d'intervention. Lorsque on disait que ça concerne la majorité finalement des appels au 15, lorsqu'il n'y a pas d'intervention, est-ce que les appelants sont tout de même accompagnés dans leur situation ? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Est-ce que, tout à l'heure on a parlé de accompagner la personne à accomplir certains gestes, par exemple ?
Alors, on essaie effectivement de ne pas laisser les personnes sans solution ou sans réponse. Voilà. Alors parfois, c'est des choses extrêmement simples, c'est-à-dire qu'en gros, on a des gens qui nous appellent en disant « Voilà, mon enfant a de la fièvre, est-ce que je peux lui donner du Doliprane ?» Alors, on va vérifier qu'il n'y a pas de critère de gravité, mais la question « Est-ce que je peux donner du Doliprane ?» La réponse est « Oui, donnez du Doliprane et allez consulter votre docteur. » Vous voyez, c'est des choses extrêmement simples et il n'y a pas forcément besoin d'accompagner les patients plus que ça. Quand je vous dis que c'est à peu près globalement 50%, c'est du conseil téléphonique, et c'est toujours en accompagnement. Donc il peut y avoir de la téléprescription, c'est-à-dire qu'on en faxe des ordonnances, il peut y avoir l'utilisation de la pharmacie familiale. Et donc, par exemple, on va ouvrir la pharmacie avec les patients, regarder ce qu'il y a dedans et trouver les médicaments adéquats. Et ça arrive, heureusement, rapidement, souvent. Et puis, ça peut être des gestes, comme effectivement, par exemple, un patient qui saigne du nez. Alors, paradoxalement, quand on saigne du nez, il faut se moucher pour sortir les caillots. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Bien appuyer, etc. On explique un petit peu les procédures. Et vous voyez, 9 fois sur 10, ça marche, en gros. On a ce saignement qui s'arrête et donc pas besoin d'aller plus loin. Donc, je dirais, l'idée, c'est vraiment de ne pas laisser les gens sans réponse. Et puis, parfois, on donne des conseils, on dit aux personnes de rappeler, on se donne un rendez-vous dans une heure, dans deux heures pour voir l'évolution. Voilà. Donc l'objectif, c'est toujours de laisser la porte ouverte. En gros, même si jamais, encore une fois, on estime que c'est passé, je prends l'exemple du saignement donné, mais ça ne saigne plus, tout va bien, on peut très bien re-saigner deux heures après, trois heures après, bien sûr. L'objectif, c'est de toujours laisser la porte ouverte pour que les gens puissent nous reconsulter. Voilà. Mais en gros, oui, il faut savoir qu'on est responsable de l'appel. Au-delà de l'appel, et en particulier si ça se passe après, le médecin qui a pris l'appel est toujours responsable. Voilà.
Et au niveau des ARM, vous avez évoqué tout à l'heure que dans votre formation, on vous parlait justement de ce type d'accompagnement dans des gestes.
Oui. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a donc une liste de motifs, ce qu'on appelle nous les départs réflexes. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir nous guider les gens justement sur des gestes à faire. Et dans la formation, on apprend justement aux élèves à bien guider les appelants pour faire les bons gestes au bon moment.
Donc ça veut dire qu'eux-mêmes sont déjà formés à ces gestes, j'imagine, pour pouvoir les expliquer à quelqu'un.
Les ARM ?
Oui.
Oui, alors les ARM, voilà. On est totalement formés sur, on est totalement formés sur ça. On a une formation bien spécifique, on est formés nous-mêmes pour pratiquer les gestes d'urgence et en plus, on est formés pour pouvoir guider par téléphone.
Ah oui, parce qu'expliquer, c'est encore autre chose
c'est
que
totalement
pratiquer
différent.
Soi-même. Ouais. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses à tous les deux. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.